Karine Torchy, l'ogresse de Belley. Celle qui paraît être la suspecte numéro un de cette affaire se montre sous un nouveau jour, au fil de l'enquête et des différents témoignages. Se dessine finalement le portrait d'une femme froide, sans affect, distante, voleuse. Le casier judiciaire de Karine Torchy n'est pas vierge. Il comporte trois mentions, vol, escroquerie et falsification de chèques. Jusque-là, ça ne fait pas d'elle une tueuse. Cependant, un autre témoignage tend à dire le contraire. Karine Torchy ne se contente pas de voler son entourage. Elle essaye de tuer leurs enfants. Courant août, Brigitte Torchy, la sœur cadette de Karine, se rend à la gendarmerie. Depuis qu'elle a appris qu'une enquête était ouverte sur la mort de la petite Samia, elle ne parvient plus à dormir de la nuit. Elle est persuadée que sa sœur est responsable, Karine en serait bien capable selon elle. En 1989, elle était déjà suspectée d'avoir poussé un enfant par une fenêtre. À l'époque, Karine Torchy est une adolescente âgée de 16 ans. Pour se faire un peu d'argent de poche, elle a passé des annonces pour garder des enfants et faire le ménage. Peu de temps après, le couple Santos, parent d'un petit garçon âgé de 4 ans, Alexandre, la contacte pour les aider dans des travaux ménagers. La mère est seule, Karine l'assiste. Un jour où Madame Santos a le dos tourné, Karine trouve un prétexte pour que le jeune garçon se penche au niveau de la fenêtre. Karine le pousse. L'enfant fait une chute de quelques mètres. Il survit, mais se fracture le col du fémur. Son hospitalisation va durer 2 mois. La mère d'Alexandre a quelques soupçons, les proches de l'adolescente également, mais à l'époque, personne n'a été témoin de l'accident. Karine a tout nié en bloc, rejeté la faute sur le petit garçon qui était turbulent. Alexandre était connu pour être hyperactif. La suspicion n'a pas été très loin. Si les Torchy ont suspecté leur propre fille, c'est parce que 2 ans plus tôt, un autre incident avait impliqué l'adolescente. Dans les jours qui ont suivi le témoignage de Brigitte, les autres frères et sœurs de Karine se sont présentés pour raconter cette autre histoire qui s'est déroulée en 1987. Karine a 14 ans. Avec ses parents, elle est invitée pour un repas chez des voisins. Cette famille a un fils handicapé, prénommé Mathieu. Il a 6 ans, ne parle pas et n'est pas autonome. Après le repas, l'adolescente s'est éclipsée dans la pièce où se trouvait Mathieu pour jouer avec lui. L'après-midi se passe tranquillement. En fin de journée, la mère de Mathieu veut changer son fils pour le mettre au lit. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle remarque que son fils est brûlé au 3e degré dans le dos. Le tissu de son vêtement est collé à la chair. L'enfant est transporté à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, au service des grands brûlés. Ce qui a causé cette grave blessure est un fait rare passé. Tous les regards se tournent vers l'adolescente, la seule personne qui a tenu compagnie tout l'après-midi à Mathieu. Elle affirme que ça n'est pas volontaire, que le fer est tombé sur lui accidentellement. Les parents de Mathieu savent que c'est impossible. Mathieu, qui n'est pas autonome, ne peut pas jouer avec un fer à repasser, et encore moins le brancher. Aucune enquête n'est menée. Ces nouveaux éléments et leur gravité sont autant de preuves suffisantes pour placer Karine Torchy en garde à vue. Le 1er septembre 2009, les policiers de la police judiciaire d'Auxerre frappent à la porte de la mère de famille. Karine est surprise de les voir, cela fait plus d'un mois que la petite Samia est décédée. Pour elle, c'est non seulement de l'histoire ancienne, mais également un accident. Cependant, dès la première heure de sa garde à vue, Karine se confie. Elle consent à dire la vérité, sa vérité. Elle a effectivement vu Samia tomber par la fenêtre de la chambre au moment où elle-même prenait son téléphone. Selon ses propos, elle est entrée dans la chambre de Vanessa, s'est penchée et a vu le corps de la petite fille écrasé au sol. Une vision qui lui était insupportable. Si elle a décidé de ne rien dire à la mère de la petite, c'est parce qu'elle avait peur qu'elle l'accuse de cet accident. Cette version des faits ne convainc pas le juge d'instruction. Il pense qu'une petite visite de Karine à Belley pourrait lui inspirer des aveux. Lorsqu'elle arrive à la gendarmerie de Belley, Karine n'est pas entendue directement. On lui laisse la nuit pour réfléchir. Le lendemain matin, Le 2 septembre 2009, elle décide de tout avouer aux enquêteurs. Elle explique que le 29 juillet, après avoir pris le repas avec la famille de Samia, les parents fument une cigarette sur la terrasse pendant qu'elle-même reste devant l'ordinateur au salon. Elle les rejoint brièvement, retourne au salon, puis voit Samia de dos près du lit de ses parents. Sans donner plus d'explications, elle raconte être allée dans la chambre, avoir saisi la petite fille par la taille pour la soulever et la faire glisser par-dessus la couverture. Elle raconte les faits de manière très mécanique, n'exprime aucun regret, ni devant les enquêteurs, ni devant le juge d'instruction. Le jour même, elle est mise en examen pour meurtre et est placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Dijon. Le 6 septembre 2009, Brigitte Torchy se présente une nouvelle fois à la gendarmerie de Belley pour accuser à nouveau sa sœur. Les faits se sont déroulés en 2004, à l'époque où Karine habitait encore à Belley. Brigitte a un fils âgé de 11 mois, Yanis. Un jour, alors qu'elle doit s'absenter, elle propose naturellement à sa sœur de venir garder son fils à la maison. Dans le feu de l'action et n'ayant pas vraiment le choix, la plus jeune des Torchy fait abstraction du passé de Karine et lui confie Yanis. Quand elle récupère son fils, il semble très mal en point. Il refuse de se nourrir, puis tombe dans un coma qui va durer 2 jours. Des analyses sanguines révèlent la présence d'insuline artificielle dans le sang. Brigitte ne comprend pas, Yanis n'est pas diabétique, il n'a pas besoin de ce traitement. À cette époque, son fils ne peut pas parler, il ne peut donc pas dire ce qu'il s'est passé pendant que Karine le gardait. Après sa 3e grossesse, elle a été diagnostiquée diabétique et devait s'injecter très régulièrement des doses d'insuline. Brigitte Torchy a choisi de porter plainte à la gendarmerie, car selon elle, le coma de son fils ne peut qu'être le résultat d'une action intentionnelle. À l'époque, Karine avait été entendue, mais disculpée. Elle avait accusé son fils de 5 ans d'avoir joué avec le stylo d'insuline. Une fois de plus, Karine conteste les faits qui lui sont reprochés. Il n'y a aucune preuve concrète de sa culpabilité, mais de grandes suspicions. Le stylo d'insuline était toujours placé au-dessus du frigo, impossible à atteindre pour un enfant de 5 ans. Le fils de Karine ne pouvait pas non plus avoir les capacités de faire cette injection, car il aurait fallu qu'il atteigne la veine de son cousin. La tentative de meurtre sur son neveu est ajoutée au dossier. 3 mois après le drame, alors que l'instruction suit son cours, Karine revient sur ses aveux. Elle écrit une lettre au juge depuis sa prison, affirmant qu'elle n'est pas coupable et qu'elle a voulu endosser la responsabilité à la place du père de la petite Samia. Selon ses propos, Majdi était sous l'influence de stupéfiants. Ce soir du 29 juillet, il jouait avec la fillette près de la fenêtre et l'a fait tomber accidentellement. Une scène dont avait été témoin Karine. Majdi l'aurait ensuite menacée de mort si elle ne s'accusait pas elle-même. Le magistrat instructeur décide de réentendre Karine Torchy, mais dès qu'elle est entendue, Karine affirme que ce n'est pas vrai, que c'est bien elle, et qu'elle a écrit la lettre pendant un moment où elle était perdue, déboussolée, déprimée. Comme l'accusé ne livre aucun mobile pour justifier un acte aussi grave, les enquêteurs cherchent toujours une explication à cet assassinat. Peut-être que le passé de la jeune femme pourrait apporter quelques éléments de réponse. Karine Torchy, née le 10 janvier 1973, est l'aînée de 4 enfants. Son enfance est marquée par l'alcoolisme et la violence de son père envers sa mère. Elle se dit elle-même victime de violences physiques. Selon elle, elle est la seule à avoir été giflée par son père. Ses frères et sœurs, eux, n'ont jamais eu droit à ce même traitement. Une affirmation que rejettent les concernés. Même en parlant de son enfance, Karine affabule. Avec elle, il est toujours difficile de discerner le vrai du faux. En revanche, il est certain que Karine souffre d'un sentiment d'abandon. À 18 ans, le divorce de ses parents vient bouleverser davantage sa vie déjà difficile. Sa mère part vivre très loin, sur l'île de la Réunion, à plusieurs milliers de kilomètres de ses enfants. Cette séparation rend Karine littéralement malade. Elle développe un diabète. Durant cette même période, son père, ancien ouvrier du BTP, est affecté par une longue maladie. Karine est contrainte d'assumer des responsabilités quasi maternelles vis-à-vis de ses frères et sœurs et de son père pour maintenir un semblant d'ordre dans la maison. Karine n'a pas la possibilité de faire d'études pour subvenir aux besoins de sa famille et enchaîne les petits boulots, mais aussi les mauvaises rencontres. Sa dérive la pousse dans les bras d'hommes qui refusent d'assumer leur paternité. Karine aura 3 enfants de 3 pères différents. À l'âge de 36 ans, au chômage depuis 2 ans, Karine se laisse parfois aller à des activités illégales pour joindre les deux bouts. Incapable de pourvoir aux besoins de ses 3 enfants, les services sociaux décident de les retirer de leur foyer et de les placer. En 2000, Karine Torchy fait une fausse couche. Un 4e enfant qu'elle n'aurait jamais dû avoir selon l'avis des médecins. Diabétique, elle doit suivre un traitement strict, mais elle néglige souvent son suivi médical, mettant sa santé et celle du fœtus en danger. Quelques mois avant le meurtre, elle exprimait sur sa page Facebook le vide laissé par la perte de son enfant. Lors de son premier examen psychologique, Karine manifeste une forme de dénégation quant à sa capacité à commettre un tel acte. En revanche, elle est bien consciente de ce qui s'est passé. Elle est encore étroitement liée à la réalité et consciente des interdits sociaux. Son lien avec le mal semble enraciné dans son enfance, marqué par un manque d'intérêt et de soutien. Sa peur de l'abandon la rend intolérante à ne pas être au centre de l'attention. Pour elle, l'enfant représente un obstacle à son bonheur. En juin 2010, lors de la reconstitution des événements dans l'appartement de Vanessa, Karine se retrouve confrontée à une foule hostile. Dans la chambre, face à la famille de la petite Samia, Karine adopte une position de retrait et refuse de participer ou de faire elle-même une reconstitution. Elle confirme simplement avoir déplacé une chaise sous la fenêtre du salon. Le procès de Karine Torchy s'ouvre le 21 septembre 2011 à la cour d'assises de Lens. Elle est défendue par maître Patrick Usan. La famille de Samia est représentée par maître Frémion. Brigitte, la sœur, a également choisi de se faire représenter par un avocat, maître Guinet. Elle compte bien faire reconnaître la tentative de meurtre sur son fils Yanis. En ce qui concerne les autres affaires, la mère de famille ne peut pas être mise en cause en raison du délai de prescription. La tension est palpable lors du procès. Les proches de la famille de Samia sont arrivés vêtus de t-shirts à l'effigie de la petite victime. Karine Torchy apparaît comme une femme très affaiblie par l'instruction. Elle a pris beaucoup de poids et peine à soutenir le regard de son ancienne amie et de sa sœur. Maître Usan l'encourage à dire la vérité, à donner un semblant d'explication à la famille de la victime. Les faits sont bien trop graves pour envisager l'acquittement. Le procès ne se tient que sur 2 jours, mais Karine reste laconique. Elle se contente de confirmer les faits et reste murée dans le silence le reste du temps. Lorsque la mère de Samia prend la parole, elle expose son chagrin et le traumatisme vécu par ses enfants. Dimitri, le fils aîné, a bien compris la situation. Il se sent coupable de la mort de sa petite sœur et exprime parfois le souhait que toute la famille la rejoigne dans la mort. Il est abattu et déprimé. À la fin du procès, le président de la cour d'assises tente de faire avouer à Karine sa tentative de meurtre sur son neveu, en lui demandant indirectement si elle en est coupable. Il emploie ces mots. « Si demain soir la cour et le jury vous déclarent coupable de la tentative d'empoisonnement de votre neveu, est-ce qu'ils auront commis une erreur judiciaire ?» Karine répond que non. En ce qui concerne les 2 autres affaires prescrites, elle répond « Je ne nie pas. » Le 23 septembre 2011, l'avocat général requiert une peine de 30 ans de réclusion criminelle, sans obligation de soins, et les jurés acquiescent. Karine reste silencieuse face à cette sentence. Son avocat, Patrick Usan, lui conseille de faire appel, ce qu'elle envisage un temps. Cependant, après quelques jours de réflexion, elle renonce et accepte sa peine. Aujourd'hui, Karine est toujours incarcérée à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, sans avoir donné le mobile de son crime.